fille des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Que de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Sur la drogue, guerre totale, parce que nous sommes de tous les pays d'Europe celui où les jeunes fument le plus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios.
Ouais, vous avez failli avoir le droit de deux génériques, mais bon, on s'est un peu loupé, parfois ça arrive. Donc Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs de 21h à 22h, l'émission du Cirque Lyon, le Cirque Lyon que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon@no-log.org. On a un site internet qui se visite aussi, www.cirque-lyon.fr, et on peut même nous joindre par voie postale, ça existe encore. Cirque Lyon, BP 93 043 69 605, Villeurbanne, CEDEX. Et aussi sur Facebook, voilà, et sur ça... Twitter.
Voilà. Voilà, ça c'est pour les infos régulières de Cannabis Circus, l'émission du cirque, bien sûr. Et donc sinon, au sommaire de ce 29 février, c'est pas si courant, bienvenue en France. Voilà, c'est une brève du Midi Libre, on va revenir là-dessus. Hein. Il y a aussi les contrôles qui se durcissent au niveau des dépistages, aussi on va revenir dessus.
Au volant,
oui, tout à fait. Hein. Et la différence entre les tests à l'alcool, les tests salivaires, voilà, qu'est-ce qui nous attend dans les années qui arrivent, et puis des chiffres assez bizarres, mais bon, on reviendra là-dessus. Et puis on reviendra aussi sur tout le débat qu'il y a en France, toujours avec Bertrand Dotzenberg, avec un bon article dans Alter Echo sur drogue, l'impasse française. On reviendra d'ailleurs aussi encore sur Dotzenberg dans la Dépêche vers la fin, sans doute, si on a le temps, on verra bien. On reviendra sur les communiqués de presse du cirque. C'est vrai qu'on oublie de temps en temps ce qu'on fait nous-mêmes,
non, ou
ce que font nos copains.
Ça va pas, non.
De l'utilité à laisser s'exprimer les cannabinophiles. Et l'exemple uruguayen, deux petits communiqués de presse qui ont été faits par le cirque, qu'on peut trouver sur le site d'ailleurs. On reviendra sur Kofi Annan, c'est un petit rappel, mais juste avant, la 51e conférence de l'ONU. Le secrétaire.
59e.
59e, ouais. Sur les stupéfiants. Donc ça va se passer à Vienne, là, le mois qui arrive. Donc lui il rappelle qu'il faut légaliser, hein. Il rappelle les 5 points pour lesquels il se bat. Un petit peu tout ce qu'on va dire, et puis on finira par des trucs nouveaux, une nouvelle molécule qui aurait été découverte qui permet de contrer les effets du cannabis, c'est l'AEF 117.
Elle n'est pas découverte, elle est mise au point.
Elle est mise au point, voilà.
Ouais. Et ça malheureusement, serait... ouais. Il y en a qui dépensent de l'argent là-dessus.
La prégnénolone.
La prégnénolone.
Prégnénolone, voilà, je n'arrivais pas à savoir exactement comment se prononçait ce terme barbare. Voilà, et puis on finira par un grand article super intéressant sur quelqu'un dont vous n'avez peut-être pas entendu parler encore, ou peut-être si, c'est Rishi Meshulam.
Non, Raphaël Meshulam.
Oui, mais dit Rishi pour les petits... dans l'intimité, c'est ce qu'ils disent dans l'article, hein. C'est pour ça que je me suis permis. Donc Meshulam, c'est un octogénaire quand même, qui n'est pas tout jeune, et qui a inventé donc en 1964 le THC, le tétrahydrocannabinol. Donc voilà, il vit en Israël, donc c'est un petit peu grâce à lui que Israël est tant en avance sur pas mal de choses au niveau cannabis thérapeutique. L'article le déclare comme le plus grand spécialiste du cannabis thérapeutique au monde. C'est possible, d'une certaine façon, oui, puisque surtout dans les molécules. Et c'est lui qui, on verra comment, il soigne plutôt des personnes avec du cannabidiol ou du cannabinol. Et là, surtout, l'exemple, c'est du cannabidiol. Voilà, bah ça, on reviendra en fin d'émission. On fera attention de se garder 10 minutes au moins pour parler, ou au moins 5 minutes pour parler de cet article et de ce chercheur qui est, somme toute, quand même assez intéressant et assez important, puisque c'est lui qui... Voilà, qui est arrivé à décrire le delta hydrocannabinol. Voilà. Autre chose à dire ?
Ça ira pour le moment.
Voilà, c'est bon pour l'intro. Allez, on part tout de suite avec Caban. On s'est dit qu'on allait passer un peu de rap. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est à nous. Ouais, voilà. Donc, c'est sorti de 30 rappeurs pour dépénaliser. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est un truc qui date déjà de fou.
Pas voilà, mal sur le morceau qu'on a écouté, le rappeur, il était parti en vacances. Hein.
Voilà. Et bon, et on sait
c'est
pas
le morceau
trop
instrumental.
Qui nous a fait. Voilà. Et voilà. Donc, on préfère rien dire plutôt que dire une bêtise.
On essaiera de mettre un morceau après où il y a quelqu'un qui chante. Voilà. Bon, alors, on va tout de suite repartir dans l'actualité. On va s'intéresser d'abord à un article de Midi Libre de la semaine dernière qui nous parle d'un couple de Hollandais. Même si la dame en question est originaire d'Indonésie. Elle a vécu plus de 40 ans en Hollande. Son ami concubin, je pense, et lui, artiste peintre hollandais pur jus, nous dit-on dans l'article. Tous les deux sont à la retraite. Ils sont venus s'installer à proximité de Agde pour passer tranquillement leur retraite au chaud et au soleil, nous dit-on. Mais au mois d'août dernier, la police est passée chez eux. Comme ça, ils ont vu qu'il y avait des beaux arbustes très, très odorants qui poussaient dans leur jardin. Il s'agissait donc de 4 pieds de cannabis mesurant plus de 2 mètres de hauteur. Donc visiblement des retraités qui ont la main verte. Et voilà, ils se sont retrouvés poursuivis par la justice, la police ayant saisi leurs plans et les ayant détruits. Ils ont été passés par la suite en garde à vue et ils ont été jugés, ils passaient au tribunal donc, de Béziers lundi dernier, la semaine dernière. Là, l'une des personnes... qui a pu s'exprimer à la barre, raconte comme ça, ben voilà, je ne comprends pas pourquoi les instances européennes ne légifèrent pas toutes dans le même sens, tout change d'un pays à l'autre. Ces pieds, on en a besoin pour notre santé, pour ma santé, dit la personne, qui rajoute en plus, voilà, j'ai une ordonnance médicale, car le cannabis me permet de ne plus souffrir de l'arthrose. Et elle ajoute, ça fait quand même 3000 ans que le cannabis est utilisé pour soigner les maux des gens, pour moi ce n'est qu'un médicament. Très intéressant comme témoignage, et beaucoup, avec beaucoup de franchise et de culture en même temps, je dirais. Quelqu'un quand même qui s'y connaît.
Oui, c'était pas mal. Mais bon, ça ne servait à rien. Non, le tribunal le procureur, est resté de marbre et 500 euros d'amende ont été requis.
Et infligés. Non, requis, pardon. Requis, mais on ne sait pas si c'est définitif. Parce que bon, oui. Les journaux écrivent... Des fois, les situations de manière relativement imparfaite, on va dire. Enfin, en tout cas, voilà, le procureur n'est pas de cet avis. Il dit, voilà, les stupéfiants sont interdits en France et je suis totalement opposé à sa banalisation. Ce genre de propos dans la situation de ces gens est complètement à côté de la plaque. Hein. Mais bon, peu importe, ils ont la loi avec eux, donc ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, y compris raconter des bêtises. L'avocat, lui, il essaye quand même un peu d'ouvrir un peu l'esprit des professionnels de la justice. Il dit, c'est quand même un cas un peu particulier. Cette dame a vécu toute sa vie avec la plante et elle l'aide à supporter ses douleurs. Quant à monsieur, je ne dis pas que cela l'aide à réaliser ses œuvres, mais le résultat est assez bon. Ils ont spontanément reconnu qu'ils avaient planté des pieds de cannabis. Ce ne sont pas des délinquants. Et l'article se termine, on peut lire, rien n'y a fait, tous les deux devront faire leur cure d'herbe en Hollande. Voilà. Mais en même temps, on ne dit pas si, après la réquisition de 500 euros du procureur, ils ont vraiment écopé de cette peine, ou si ce sera la semaine prochaine, parce que bon, des fois ça met une semaine. On ne sait pas, mais bon, il y a quand même fort à penser, à parier que ils vont quand même se prendre 500 euros d'amende, quoi. Ah, mais si, regarde plus haut, c'est marqué ils ont été condamnés à 500 euros d'amende et leur plantation détruite. Dans le Midi Libre, ils écrivent un peu à l'envers, quoi. Ils te mettent un peu la condamnation au début, puis à la fin, ils te proposent la réquisition du procureur. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est le Sud. Voilà, il fallait être attentif dans ta lecture en diagonale, en fait.
Voilà, ouais. Mais pourtant, c'est pas fou d'avoir relu l'article, parce que je l'avais trouvé bien. Et il n'était pas court, pas long en plus. Bon. En tout cas, voilà, ils ont pris 500 euros.
Bienvenue dans le Sud, nos amis hollandais.
Voilà. Peut-être qu'ils vont changer d'avis et qu'ils vont aller s'installer encore plus au Sud, en Espagne par exemple, où là-bas, quand même, il semblerait que les gens soient un peu plus ouverts d'esprit. Quoi.
Ils sont plus latins peut-être.
Voilà.
Drogue au volant, c'est l'Union qui nous fait un article là-dessus. C'est Elisa Eoké qui écrit donc drogue au volant, les contrôles se durcissent. Et en sous-titre, elle dit le nombre de délits routiers liés à l'usage de stupéfiants a nettement augmenté. Les acteurs de la lutte contre l'insécurité routière préparent donc une nouvelle stratégie. La seule chose, c'est que dans tout son article, elle ne montre pas du tout, en aucune façon, que le nombre de délits routiers liés à l'usage de stupéfiants a augmenté. Elle cite juste que 23% des accidents mortels seraient liés aux stupéfiants. Donc je ne sais pas d'où vient ce chiffre, et je pense que celui-là comprend dans ces 23%, il doit bien y en avoir au moins 19,
ou 22,
ouais. Ou 22 où il y a de l'alcool avec.
Ben oui, oui, et c'est, en tout cas ça a l'air assez flagrant quand on connaît un peu tout le schmilblick et qu'on suit l'actualité depuis plus de 10 ans sur cette question-là en particulier. Encore une fois, on rappelle, hein, parce que ça paraît... c'est quasiment inconnu, mais il faut quand même savoir que la France, des chercheurs français sont à l'origine d'une étude sur la conduite automobile et la consommation d'alcool et de stupéfiants, plus particulièrement du cannabis. Une étude intitulée « Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière » qui a été publiée en 2005, qui fait autorité dans le monde entier et qui est complètement inconnue en France, quoi. Voilà, c'est paraît assez incroyable, mais bon, on n'oublie pas et on rappelle régulièrement les résultats de cette étude qui avait montré que justement la consommation de cannabis seul au volant était assez peu accidentogène en fait, ou en tout cas elle était comparativement avec une consommation légale d'alcool.
Tout à fait. Voilà. Donc moi, il y aurait une suggestion qu'on pourrait peut-être leur faire, hein, ça n'a rien à voir avec l'article, mais on y reviendra, c'est l'interdiction de la polytoxicomanie, peut-être. C'est-à-dire...
La polyconsommation.
Ou la polyconsommation, tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas forcément dans la toxicomanie quand on consomme un petit peu. Donc la polyconsommation, c'est-à-dire l'alcool, ben, c'est déjà, en plus il y a des seuils, c'est bien noté. Mais après, on pourrait rajouter une circonstance aggravante, pourquoi pas, s'il y a du cannabis, ou s'il y a des médicaments pour lesquels il est recommandé de ne pas boire avec, par exemple, aussi. Voilà, il y a différentes choses comme ça, et faire une loi un petit peu plus complète, pas uniquement uniquement centrée sur le cannabis.
Alors, ça serait bien. Ça me fait penser, justement, qu'il y a une petite quinzaine d'années, quand ils avaient commencé à faire l'étude stupéfiant et accident mortel de la circulation routière, au début, ils avaient envisagé de dépister justement les médicaments et un certain nombre d'autres produits. Et à la demande du nouveau gouvernement à la réélection de Chirac en 2002, le nouveau gouvernement avait demandé à ce qu'on n'inclue pas dans les recherches, dans la recherche, dans l'étude, la recherche de médicaments, justement.
Cette grande enquête, d'ailleurs, avait été lancée par Lang, si on s'en souvient bien, quand il était passé quelques temps au ministre comme ministre de la Médecine.
De la santé, pardon,
voilà.
Ministre de la médecine.
Bien qu'il soit toujours ministre de la culture, voilà, bon, bref, je m'égare. Donc on va revenir sur cet article sur drogue au volant, les contrôles se durcissent. Donc elle part d'un petit truc assez marrant, elle part d'une brigade de Châlons en Champagne, hein, donc c'est leur fait, hein, ils ont fait en 2015 environ 1300 dépistages de produits stupéfiants. Et sur ces 1300 dépistages, il y en avait 1000 qui étaient positifs. Alors comparé à l'alcool, où ils ont fait 78 000 contrôles d'alcoolémie, et il n'y en avait que 1400 de positifs. De très positifs, quoi, d'au-dessus de la norme. Hein. Mmh. Il y en avait d'autres en dessous, mais en dessous de 0,5, on ne les prend pas en compte. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir ces proportions. Bon, ça voudrait dire soit qu'il y a beaucoup plus de gens qui fument, mais non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est juste que la loi, jusqu'à maintenant, il fallait une circonstance pour pouvoir contrôler quelqu'un au cannabis. Ce qui n'est plus le cas maintenant, on peut le contrôler comme on veut, quoi, ils peuvent nous contrôler comme ils veulent, quand ils veulent. Voilà, il n'y a pas besoin d'une infraction ou d'une suspicion, voilà. Il n'y a même plus besoin de ça. Alors déjà qu'avant, c'était un peu à la tête du client. Voilà, puis bon, il rappelle, après, bon, il y a des trucs assez pragmatiques, il rappelle que maintenant, il faut deux tests de dépistage salivaire successifs, donc s'il est positif, le premier, ils en refont un second, mais ceci, maintenant, a valeur de...
De preuve.
De preuve.
Et oui, la loi a été changée, il n'y a plus besoin d'un test sanguin. Enfin, voilà, d'un dépistage sanguin. Ouais.
Ce qui prenait beaucoup, beaucoup de temps avant et qui coûtait assez cher. Ouais. Voilà, donc la deuxième chose, après, bon, il rappelle un petit peu l'OFDT, que bon, plein de gens ont fumé à 17 ans, 1 sur 2. Oh là là là, les adolescents fument beaucoup. C'est pas bon pour eux du tout. Et puis après, ils racontent que maintenant, ils arrêtent de mettre des primes, et ils mettent plutôt Ils organisent des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Et surtout, alors, ça c'est marrant parce qu'ils parlent des lunettes, et les lunettes qu'ils ont, c'est plutôt pour reproduire l'effet de l'alcool. Ouais. Mais comme l'article est fait, on ne voit pas si on parle d'alcool ou de stupéfiants. Bref, en tout cas, ce qui est bien, c'est que quand ils ont fini de visionner la vidéo, ils n'en reviennent pas. Et ces jeunes affirment donc qu'ils ne consommeront ni drogue ni alcool au volant. Mission accomplie donc, voilà. Heureusement qu'il y a ces stages quand même pour avertir nos adolescents que prendre du cannabis, c'est pas bon. Et surtout quand on est jeune, puisque ça fait des dégâts irréversibles sur le cerveau. Ceci est vrai pour l'alcool et pour le cannabis, hein, pour toutes les drogues en général. Quand on est adolescent et qu'on a le cerveau qui se fabrique, il est quand même mauvais.
Il est fragile.
Il est très mauvais de consommer. Et ceci pour toutes les drogues, aussi bien les légales que les illégales. Il faut le dire et le redire, parce que c'est quand même important qu'on ne nous dise pas qu'on ne fasse pas de prévention. Même si on pense que pour les adultes, il faudrait peut-être changer un petit peu les choses. Voilà. Et pour finir sur cet article, donc, qui reviennent sur 23% des accidents mortels liés aux stupéfiants.
23% des accidents mortels de la circulation,
oui. Oui, de la circulation liée aux stupéfiants.
Ben, contre positif au stupéfiant.
C'est une estimation de la sécurité routière qui a été faite en 2015. Voilà, on sait, on comprend pas trop que comment ça marche, mais bon, voilà. On en aimerait savoir un petit peu plus sur cette étude et d'où sort ce chiffre de 23%, à moins que dans ces 23%, il y ait 22% qui est de l'alcool, ce qui est fort possible.
Oui, bah en général, c'est ça. Hein. Quand même, par recoupement d'articles dont on parle de temps en temps, c'est évident. Voilà, c'est évident. Mais bon, le problème, c'est que s'ils disent vraiment les choses clairement, ben, ça tombe à plat, leurs arguments. Quoi. Alors, donc, tout l'intérêt de maintenir le lecteur dans le flou, de continuer à lui faire peur, voilà.
Non, mais c'est pour faire plaisir au Pékin alcoolique français moyen, pour lui dire, mais vous avez vu de manière, tous les problèmes, ça vient du cannabis, ça vient pas de l'alcool. Hein.
Voilà, tout va bien.
D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on a fait, vous rendez compte, on est passé à quelques 10 millions de dépistages pour l'alcoolémie, hein, alors que pour le cannabis, il n'y en avait que 67 000 en 2010, et maintenant on est 144 000 en 2013, vous avez vu comment on travaille bien, et l'année prochaine, ça va être pire, on va arriver au million. Parce que les tiges, les cotons-tiges, ça va y aller. Ça se facile. Oh là 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 là.
Ouais. Alors, par rapport à ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur le site internet du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr. Vous allez dans la rubrique tract, vous cherchez le tract sur la conduite automobile et l'usage de cannabis. Vous le lisez. Et vous... comment dire... Alors, il y a une petite correction à faire, vous la ferez par vous-même, parce que dans le tract qu'on avait fait, quand on l'a créé, il y avait encore le deuxième test qui était un test sanguin.
Donc
voilà, il y a cette petite modification à faire. Mais
ça après, change tout le temps. Oui, on n'arrête pas de refaire les choses.
Bah, il faut, c'est bien.
Mais voilà. En plus, nos idées évoluent, mine de rien.
Donc, ce que je voulais dire, en fait, pour terminer, c'est que de deux choses l'une, si vous prenez le volant après avoir fumer du cannabis, déjà évitez de le faire dans les 10 minutes après avoir écrasé votre cigarette, parce que là, malheureusement, il y a des chances que s'il y a un test salivaire, vous passiez pas à côté, donc le mieux c'est quand même d'écraser votre cigarette 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 demi-heure avant, et de manger des gâteaux, de manger quelque chose pour vous changer un peu l'ambiance dans votre bouche. Il y a aussi...
Prenez-le à l'apéro, pas au Dijon, quoi, en gros.
Je sais pas ce que tu entends par apéro.
Avant le repas plutôt qu'après.
Ouais, enfin pour moi, apéritif, ça rime avec alcool, mais bon.
Oui, mais alors, si tu veux.
Donc voilà. Et pour terminer, tu vas me laisser finir quand même. Sur Internet, vous pouvez toujours essayer de vous procurer des tests salivaires. Ça existe, il y a des fabricants, vous pouvez en acheter. Et comme pour le test alcoolémie, avant de prendre le volant, bah, vous faites un petit test, comme ça vous pouvez savoir où vous en êtes. C'est aussi une possibilité, c'est aussi une stratégie de prévention, quoi. Voilà, pour ce qui concerne les dépistages, le cannabis au volant, ou l'alcool, ou je sais pas quoi. Voilà.
Allez, une très très courte.
À tout de suite.
Ah ouais, je te jure, les manches d'aubes là-dedans, toi. Non, je te jure. Hein, tous les petits morveux là, qui fument du cabanis, là. Je te mettrais tous en tôle, moi c'est pas compliqué.
Mais vous, c'est pareil, vous picolez, on devrait vous mettre en zonzon aussi, moi je te le dis.
Ah bah t'es pas mal le raclo, là. J'aimerais bien voir ça. Hein, on m'empêche de boire mon pinard. Hein, moi je te le dis, y'a pas moyen. Et puis c'est quand même pas pareil que votre truc là, vous c'est de la drogue quand même.
La drogue et tout.
Moi, ça fait plus de 10 piges que je picole. Hein, je bois mon litron tous les jours. Et ben, ça va impeccable. T'inquiète pour le GG. Hein, non, mais oh. À un moment donné, il faut être sérieux. Hein, on peut pas dépénaliser votre truc.
Ouais, c'était juste pour la petite pause. Donc ça, c'est la première, donc de toujours 33 heures pour dépénaliser. Allez, je vous remettrai les toutes petites courtes comme ça qui sont de ci, de là, hein, quand je tombe dessus. Allez, un petit article suivant, je t'en prie. Pourquoi on est dans l'impôt française après Xavier Molina, donc?
Ah ouais, un article ultra intéressant de Alter Eco Plus, drogue, l'impasse française. Qui reprend un peu les déclarations de Dotzenberg, hein, Bertrand Dotzenberg, tabacologue réputé, qui a récemment pris position en demandant une dépénalisation, mais de la manière dont il l'explique, c'est vraiment une légalisation du cannabis. Et donc, ce journaliste nous dit quand même que sa prise de position détonne, surtout qu'on sait quand même que Dotzenberg est une figure de la lutte anti-tabac. Et que rares sont en effet les voix qui, dans le contexte français, remettent en cause l'approche répressive de l'usage de drogue en France depuis la loi de 70. Puisque la loi de 70 fait de toute consommation, même détention, un délit passible de prison. Voilà. Il faut quand même rappeler, parce que c'est quand même toujours la loi, qu'aujourd'hui en France, la consommation d'un seul joint de cannabis peut... dans la loi, c'est un an de prison ferme, quoi. Voilà. Et puis 3 750 € d'amende, et la culture d'un seul pied de cannabis chez vous peut vous valoir 20 ans de prison si on applique les textes à la règle.
Voilà. Oui, c'est bien de le rappeler, mais heureusement qu'ils ne sont pas appliqués à la règle. Hein.
Oui, en effet. Est-ce que les jeunes hollandais, les retraités hollandais qui habitent vers Agde, avec 4 pieds ou 2 pieds de 2 mètres, ils auraient pris beaucoup. Alors,
rappelle-moi, il me semble bien que la peine planchée en cas de récidive a été supprimée. Hein,
par Taubira, normalement, oui.
Elle a été supprimée par Taubira, ce qu'avait instauré
Rachida Dati, oui, en 2007. Ouais.
Parce que si on reprenait ça, hein, perpétuité pour la plantation, ou 20 ans, ça faisait 7 ans, 6 ans, mini.
Mais t'es meilleur en calcul que moi, je te laisse.
C'est un tiers, quoi, du voilà.
Ah oui, d'accord. Ouais. Bon,
alors, il me semble que c'est un tiers la peine planchée, hein, ou la moitié.
Je ne me rappelle plus.
Mais bon, voilà, c'est lourd, quoi. Ça aurait été n'importe quoi. Heureusement que ça a été supprimé, merci Taubira. Voilà, bref.
Bon. Alors, ce qui est bien dans cet article, c'est que justement, on nous parle de la répression liée au cannabis, et que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et notamment dans le monde politique, hein, alors je cite cette phrase, « Loin du mythe de la dépénalisation de faits qui parcourt le monde politique, Ivana Obradovic, qui est sociologue et chercheuse à l'OFDT, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, elle nous raconte que on a plutôt assisté à une repénalisation de l'infraction d'usage simple de cannabis en France ces 10 dernières années. Voilà, le nombre de personnes interpellées pour ILS a ainsi été multiplié par 50 depuis 1970. Voilà. Et la plupart de ces interpellations, dont 83%, se faisant au titre du simple usage, 9% pour usage revente et 6% pour trafic. Voilà, autre évolution notable, la focalisation croissante sur les consommateurs de cannabis, qui représentaient 90% des interpellations pour usage de drogue en 2010, alors qu'ils étaient seulement 56% en 85.
Voilà, mais c'est d'autant une des raisons, c'est la politique du chiffre, hein, rappelez-vous.
Tout à fait.
Ça me rappelle une blague, un dessin que j'ai vu aujourd'hui, alors je sais plus sur quoi, je sais pas quand j'ai, voilà. En fait, ça disait, c'était un inspecteur qui venait, qui était tout content, qui venait de choper un mec avec une tonne de cocaïne, et le commissaire le regarde et dit, mais vous auriez pas pu t'attraper 1000 personnes avec un gramme.
C'est plus rentable statistiquement, ouais.
Voilà.
Donc, politique du chiffre, de la course aux statistiques instaurée par monsieur Nicolas Sarkozy en 2002, lors de sa prise de fonction.
Et toujours, toujours d'actualité, qui n'a pas été remise en cause par notre gouvernement de gauche socialiste.
De gauche.
Ouais. De droite.
Ou de droite. On ne sait pas. Alors, cette augmentation, en fait, des interpellations s'est accompagnée, nous dit-on, d'une systématisation de la réponse pénale. Voilà. C'est-à-dire qu'entre 2001 et 2014, la part des affaires d'usage jugées non poursuivables, c'est-à-dire classées sans suite, s'est considérablement réduite, passant de 21% à 3%. Là encore, conformément à la à la demande de Sarkozy quand il est arrivé en tant que ministre de l'Intérieur en 2002.
Et c'est aussi grâce à Taubira qui a automatisé certaines peines avec des amendes automatiques.
D'accord, en effet, oui, c'est vrai. Alors, donc voilà, donc les sanctions pour usage sont devenues quasi systématiques. Et donc, du coup, les amendes, comme tu dis, alors 316 € en moyenne en 2013. Et les peines de substitution, voilà, se sont imposées donc, face à des peines de prison dont on nous dit qu'elles sont désormais minoritaires. Alors là, j'aurais bien aimé qu'on éclaircisse quand même un petit peu. Certes, elles sont devenues minoritaires, mais encore aujourd'hui, en 2015-2016, il faut rappeler qu'il y a entre 800 et 1 millier d'usagers de cannabis ou de petits usagers partageurs revendeurs qui se retrouvent derrière les barreaux. Mmh. Voilà. Encore aujourd'hui. Donc certes, il y a peut-être une diminution du recours à l'incarcération, il y en a quand même toujours entre 800 et 1000, comme il y a plus de 15 ans. Quoi. Donc ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. On peut toujours aller en prison pour une question de cannabis, et on l'a vu il n'y a encore pas si longtemps, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, d'un individu qui a été attrapé pour du cannabis. Ce n'était pas sa première interpellation, ce n'était pas de l'usage simple, ni du primo-usage. Et là, quand c'est ce cas-là, et que vous êtes consommateur, ben c'est la casse-prison. Quoi. C'est plus les alternatives aux peines, quoi, aux peines d'incarcération. Faut quand même le rappeler.
Quand tu dis pas usage simple, c'est qu'il en avait juste une certaine quantité parce qu'il fumait lui-même. Ça veut pas dire qu'il était revendeur.
Tout à fait. Là, pour le coup, de ce cas dont on a parlé il y a 15 jours, c'était vraiment un usager et il n'y avait pas du tout d'histoire de revente. Ouais. Voilà. Donc, c'est sûr que si vous êtes usager, vous êtes usager sur la durée pendant plus de 10-20 ans, il n'y a pas de stage à la sensibilisation d'usage du cannabis. Chut, prison. Voilà. Alors ensuite, on va avancer.
Hein. Oui, il faut qu'on avance dans cet article, peut-être, ou qu'on le finisse.
Oui, on va avancer.
Il finissait sur le débat toujours refusé, puisque cet échec de l'approche répressive, donc qui démontre avec. Il sort plein de chiffres tout le long. En plus, avec une analyse de Beck sur le nombre de personnes qui fument tout court. Bref, c'est moins cher, plus dosé, plus accessible que jamais. Bon, bref, je ne sais pas exactement. Je l'avais lu en détail. Bon, en tout cas, il conclut que notre approche répressive n'a paradoxalement pas abouti à une véritable remise en cause. Hein. Un immobilisme qui surprend, étant donné la forte évolution qu'ont connue à l'échelle mondiale les politiques publiques en la matière. Donc on rappelle Portugal, Espagne, en plus de la Hollande, de la légalisation encadrée comme le Colorado, Uruguay.
Pas Colorado, Washington, Oregon, Alaska maintenant, Uruguay en effet.
L'OMS qui a pris position contre la pénalisation, entre autres pour ses effets délétères sur les usages de termes de santé.
Sur les usagers en termes de santé, oui.
Voilà, donc c'est...
Et voilà. Aussi, il y a tout ce qui est côté discrimination sociale, exclusion sociale, et que, voilà, il n'y a pas de... Alors certes, il n'y a pas de solution miracle, hein, comme le rappelle Beck, mais il explique quand même, et c'est intéressant, qu'aucun lien n'a été démontré entre le statut légal d'un produit et les niveaux d'usage observés, en l'occurrence, ben, dans des pays comme le Portugal ou l'Espagne ou la Hollande, où il y a plus de tolérance, voire une certaine forme d'autorisation grise, certes, à l'achat dans certaines officines, les niveaux d'usage chez les jeunes notamment sont bien moins élevés qu'en France.
Voilà, ce qui lui permet de conclure, hein, pour reprendre ces mots qui sont pas mal. Néanmoins, donc, ces mesures d'assouplissement ne semblent pas entraîner la hausse de la consommation, tout en permettant d'améliorer la vie des usagers et les actions de prévention. En tout cas, il y a matière à débat, et débat qu'en France... Personne veut aborder.
Alors, on nous dit pour des raisons mystérieuses. Voilà, elles ne sont pas mystérieuses, les raisons, malheureusement. Mais en tout cas, le débat n'est pas abordé. Voilà.
Voilà. Est-ce que tu veux parler d'un des deux ou des deux communiqués de presse du CIRC?
Oui, bien sûr. On va parler d'abord du premier que je vais vous lire. Hein, communiqué de presse du 23 février dernier, de l'utilité de laisser s'exprimer les cannabinophiles. Voilà. La question du statut du cannabis ressurgit régulièrement à l'approche d'échéances électorales importantes ou à l'occasion de sorties verbales de telle ou telle personnalité. Celles du professeur Dotzenberg n'ont pas manqué de susciter un vif intérêt médiatique. Qu'un éminent pneumologue, chantre de la lutte anti-tabac, vienne à prôner la légalisation d'un stupéfiant est inhabituel. Inhabituel, mais cependant pas inconcevable, dans la mesure où l'on se réfère aux très nombreuses études consacrées à cette plante, révélant sa très faible dangerosité. Et notre honorable néo-antiprohibitionniste de tabacologue, M. Dotzenberg, de se voir donc invité sur tous les plateaux, en toutes émissions, de remplir les pages de la presse nationale comme régionale. Comme si il avait été le premier à dire un truc comme ça, alors que quand même Schwarzenberg, dès 1980 quelques, là, il avait dit ça et puis il a démissionné aussi. Hein.
Voilà. Ouais, sachant, il y a de plus en plus de journalistes, de gens qui le taisent et qui sont cannabinophiles. Tout le monde, il y en a de partout, on en voit de partout quand même. Et les gens se taisent, quoi, esquivent. Voilà, c'est un sujet, c'est un état assez normal. Donc là, voilà, c'est une caution, quoi. On peut pas nous taxer de cannabinophiles quand on parle du professeur Dotzenberg, qui est un très honorable docteur
et non fumeur.
En pneumologie et non fumeur.
Non pratiquant, oui. Alors, je continue. Alors, sachant l'habituelle difficulté qu'il y a à s'exprimer autrement qu'en louant le système répressif, on ne pourrait que s'en réjouir. Sauf qu'à lire, visionner ou entendre le professeur Dotzenberg, on peut être étonné des arguments employés et regretter que ceux-ci soient exclusivement tournés vers une approche sanitaire, bien en deçà de la réalité. L'usage problématique, en l'occurrence l'abus, ne représente en effet pas plus de 10% de la consommation générale. Quant aux risques sanitaires à proprement parler, bronchite, cancer, ils sont principalement liés, eux, au mode de consommation par combustion avec ajout de tabac, pratique qui peut être évitée notamment grâce à la vaporisation. Il ne peut y avoir de débat d'experts sur la question du cannabis sans qu'y participent les principaux intéressés. Qui mieux que les cannabinophiles peuvent en effet s'exprimer à ce sujet. Qui possède l'expérience du produit, en connaît les dangers comme les vertus, sinon les usagers eux-mêmes. La contribution des cannabinophiles au débat est sans équivalent, à l'opposé des discours souvent hystériques des partisans de la prohibition et de leurs arguments fallacieux. Ceux des usagers ont le mérite d'être basés sur l'expérience. Les entendre, c'est comprendre et non encourager. Leur donner la parole, c'est aussi et surtout préférer l'expression libre à la censure, l'authenticité au mensonge. Voilà, voilà. Pour ce premier, et à mon avis, le plus intéressant des deux communiqués de presse. Mais on va d'abord écouter un peu de musique et on revient.
Voilà, moi je voulais juste rajouter ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Dotzenberg et sa position assez étrange en étant contre le fait de fumer et en étant pneumologue et de dire qu'il faut légaliser le cannabis. Ça me rappelle la position de Caballero qui lui était aussi à sa façon
un petit peu
bizarre, profondeur de l'industrie du tabac, qui a gagné des procès contre eux en justice, contre la CETA. Et qui d'un autre côté était pour la légalisation du cannabis contrôlé, quoi, c'est la légalisation contrôlée qui disait, voilà, du cannabis, c'était le premier à avoir dit ça, et avec un discours somme toute assez intéressant.
Oui, oui.
Voilà, et assez ambigu, voilà, complexe, une pensée complexe, une pensée quoi. Allez.
Main gauche, main droite. Eh oui, ce qui est sûr, c'est que je suis aussi bon de l'une que de l'autre.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Yeah. Je roule un gros feuille 3, à la mémoire de Bob Marley. On dépénalise notre mode de vie et la presse en parle. Right. On veut me pénaliser, sûrement à cause du fait qu'ils m'ont naturalisé. Ces hommes de tête voudraient nous faire paralyser. Espèce de fâcheux en constat. Fais par miroir tes co-ministères, tu bosses tard. La planche circumscrète, les coupables sont blanchis. Mais franchement, je reste fermement affranchi.
Dépénalise.
Avant qu'on vandalise.
Avant qu'on vandalise.
Dépénalise.
Ouais, je l'avais mis courte.
Mais c'est pas des chansons là, voilà. Qui nous mêlent.
Comment?
Pas des chansons que tu mets.
Mais si, mais tu sais, on a vachement de retard. Alors ça me permet d'en passer plusieurs, des petites courtes, c'est sympa. Voilà, et comme ça c'est bien quoi. Et ça permet de revenir tout de suite. Bah, chanterie. Alors, est-ce qu'on passe très rapidement sur ce communiqué de presse faute autre?
Je vais très vite, tu vas voir.
C'était juste à l'occasion du passage de Hollande en Uruguay pour lui rappeler qu'il fallait qu'il regarde ce qui se passait là-bas. C'est ça qui l'ouvre les yeux.
Oui.
C'était rien d'autre ce communiqué de presse.
Voilà. C'est quand qu'il est allé en Uruguay, là, Hollande?
Bah là, alors je sais pas s'il y est passé, j'ai pas fait attention, je l'ai pas suivi. Ou alors.
Il va y aller, alors.
À moins que notre camarade ait été trop rapide et qu'à cause de.
De sa panne d'avion là, où il avait problème de réacteur sur l'aile gauche, et il n'a pas pu décoller pendant 24 heures, et peut-être qu'il a peut-être zappé l'Uruguay, ou alors il y est passé sans qu'on y fasse attention, comme personne, tout le monde se fout à peu près de ce que fait le président actuellement. Voilà.
Ouais, bon, bref. Bref. Je ne sais pas.
Autre chose à dire ? Non, rien d'autre sur ce communiqué de presse. Allez, on va passer très vite aussi. On va se le faire un petit peu en zap, celui-là, ou en rapide, bien qu'on l'aime beaucoup, Kofi Annan. Notre ancien secrétaire général de l'ONU dans les années 97 à 2006, voilà, qui appelle à une légalisation massive du cannabis pour combattre le problème des abus de drogue et du trafic illégal. Donc, c'est à l'approche de la 59e session de la commission des stupéfiants de l'ONU qui parle de ça. Donc, il rappelle ça sur 5 points. Il dit les lois sur les drogues mettent plus en danger les citoyens que les drogues. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis des années. Le produit est plus dangereux que est dangereux parce qu'il est interdit et non pas parce qu'il est dangereux. Voilà, ça c'était la première chose. Qu'est-ce que j'avais marqué ? Il faudrait, donc, qu'est-ce qu'il a dit plus tôt ? Qu'est-ce que j'ai souligné ? Une politique basée sur l'assentiment commun et les sentiments populaires peut devenir une recette pour les prescriptions erronées et des interventions malencontreuses. Bon, voilà, en tout cas, voilà, le problème vient plus de l'interdiction que de la drogue elle-même. Deuxième truc qu'il dit, c'est que la guerre contre la drogue est une guerre contre les personnes. Hein, c'est pas...
La guerre à la drogue est d'abord une guerre contre les usagers des drogues.
C'est voilà, sûr. c'est bien ce qu'il dit. Et il rappelle que la prohibition a eu que peu d'impact sur l'offre et la demande des drogues. Voilà, donc si la répression sur la production fonctionne à un endroit, on voit tout de suite un vase communicant et une autre zone se créer à côté pour répondre à la demande qui existe toujours, puisque en fait il y a une demande pour les produits, elle est faible, elle existe depuis des éternités. Voilà, bon, bref, on avance. Question suivante, troisième point, la prison est plus nocive que la consommation récréative de drogue. Voilà, donc on a parlé de l'incarcération pour des simples usagers. Hein, c'est pas très intéressant comme façon de. Et on n'apprend pas tant de choses que ça en prison, il me semble.
Si, on apprend à devenir un plus grand criminel encore. C'est bien, je trouve.
Voilà, et.
Ça sert bien, ça fait évoluer des carrières. Hein.
Et en plus,
dans la criminalité.
Même si ce jeune a la chance d'échapper à la prison, il peut quand même se récupérer un casier judiciaire avec relevé de consommation de drogue. Et cela peut lui fermer certaines possibilités d'emploi, comme par exemple hacker à la CIA ou FBI.
Ou FBI, oui. Oui, non, mais même sans aller si loin, en France, c'est déjà un problème. Il faut savoir quand même qu'en France, un casier judiciaire pour une affaire de cannabis. C'est 40 ans au casier, c'est imprescriptible quasiment, 40 ans si vous avez été condamné, voilà, c'est comme pour le terrorisme.
Bref, voilà, il est temps donc de réviser les traités sur les drogues. Voilà, les traités sur les drogues ne remplissent pas les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Donc, l'origine de la politique, c'était de protéger la santé et le bien-être de l'humanité. Et alors qu'on se rend compte que...
La prohibition, ça a plutôt nuit à la sécurité, parce que ça a favorisé l'émergence et le maintien et le développement de systèmes parallèles, mafieux, etc. Bref, ça a fait croître le crime organisé, carrément.
Voilà, et donc pour ça, eh ben il faut 4 étapes. Première étape, dépénaliser les drogues récréatives. Et il parle pas de cannabis. Hein. Je vous fais noter hein, qu'il parle bien de dépénaliser les drogues récréatives en disant la consommation de drogues est nocive et réduire sa nocivité doit être un sujet de santé et non de justice. Ce doit être couplé avec un renforcement des services de soins, notamment dans les pays peu développés ou en voie de développement. Voilà, il faut accepter qu'un monde sans drogue est une illusion. Nous devons en revanche nous concerter et nous assurer que les drogues causent le moins de mal possible. Deuxième, après dépénaliser donc les drogues récréatives, deuxième truc, réguler et éduquer. Donc nous devons regarder la régularisation et l'éducation plutôt que la suppression des drogues.
La régulation.
Qui ne fonctionne pas. Oui, la régulation.
On te dit régularisation.
Pardon, c'est exact, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est vraiment, bon, on arrive à ce qu'on disait, à une légalisation contrôlée, une légalisation quoi, ou une législation des stupéfiants avec un commerce encadré. Pour les majeurs, entre autres. Voilà, donc troisième chose, à légaliser le cannabis. Donc petite nuance, hein, dépénaliser toutes les drogues, hein, mais légaliser que le cannabis. Voilà, les tendances initiales nous montrent que là où le cannabis a été légalisé, il n'y a pas eu d'explosion de la consommation de drogue ou de crimes liés à la drogue. La taille du marché noir a été réduite et des centaines de jeunes ont été épargnés d'avoir un casier, etc., etc., etc. Tout ça, et je crois qu'il y avait un quatrième point que je n'arrive pas à trouver. Voilà, bref, en tout cas, les Nations Unies donc, doivent prendre la tête d'un changement global ce printemps.
Voilà, entre le 19 et le 21 avril, cette Assemblée Générale.
Voilà, voilà, pour faire vite sur cet article, donc, que vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse quand même, c'est dans Newsweek. Voilà, Newsweek, Kofi Annan, et puis vous tombez sur tout l'article, c'est intéressant, et qui rappelle oui, voilà, des
points. Il y a même super bien cet article.
La dépêche, est-ce qu'on revient là-dessus? Cannabis, la dépénalisation en question. Voilà, donc il revient encore sur le professeur Dunsenberg. Voilà, maintenant on va commencer à le connaître, un autre pneumologue. Hein, donc il répète toujours la même chose, hein, continuer à interdire la consommation de cannabis ou dépénaliser son usage, la question fait débat. Voilà, donc il rappelle tout ça. Pour lui, l'illégalité d'une substance favorise la circulation de produits plus toxiques. Il rappelle que l'alcool frelaté du temps de la prohibition faisait beaucoup plus de morts que l'alcool lui-même.
Voilà, et donc il dit d'ailleurs le cannabis.
Ça rendait aveugle. Il faut rappeler quand même parce que c'était l'alcool frelaté, quoi. Et ça ne tuait pas forcément immédiatement, mais en tout cas, il y en avait beaucoup qui rendaient aveugle.
Voilà, donc il dit le cannabis en France aujourd'hui, c'est l'alcool frelaté au temps de la prohibition, avec quand même des effets sanitaires moindres.
Voilà,
faut pas exagérer.
Le THC reste une drogue, le cannabis reste une substance psychoactive, une drogue dont il faut éviter la consommation. Mais pour avoir du cannabis propre sur le marché, donc moins toxique pour les usagers, il faut qu'il soit légalisé, défend le pneumologue. Voilà, donc la consommation de cannabis augmente et se banalise au point d'être aussi, voire plus banale que le tabac ou l'alcool. Voilà ce qu'il nous raconte ce cher Dunsenberg.
Tout va bien, rassurez-vous. Donc, oui, bon, peut-être passer à autre chose là, parce que bon, ça recoupe un peu ce qu'on a vu avec.
Voilà, donc la question, voilà, l'égalisation, c'est-elle à fumer? Non, pas du tout. Voilà, bref. Ah.
Alors, ceci dit, c'est quand même des arguments qu'on commence, enfin, qu'on entend un petit peu, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Hein, ce genre d'argument, ça sort récemment sans aucune étude.
Mais là, là, plus vite, parce que là, il parle vraiment de légalisation quand même. Alors, c'est souvent, de temps en temps, l'article tout à l'heure, c'était dépénalisation.
Dunsenberg,
il ne sait pas trop. Non, mais c'est juste pour finir, parce que là, je voyais un truc intéressant. Donc, il revient bien à la base. Hein, il évolue. Hein, il rappelle ce qui se passe en Uruguay, où il veut casser les trafics, voilà, tout en. Voilà, il veut casser les trafics. Et bref, surtout, ça permettrait une légalisation. Hein, c'est pour ça que ça permet une prévention efficace. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une dépénalisation, hein, parce qu'il veut étiqueter et contrôler les produits.
Oui, c'est une vraie légalisation.
C'est vraiment une vraie légalisation. Après un ou deux ans, temps nécessaire pour briser le marché noir, une augmentation adaptée des taxes permettrait de faire reculer la consommation, comme dans les pays qui ont encadré la légalisation du cannabis. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse? On se fait vite fait la molécule contre les effets du cannabis en test depuis le mois de septembre.
Ah bah oui, je pense qu'il faut.
Cette AEF-117, cette prénienolone. Ouais. Je te laisse en parler, mon cher.
Oui, si tu veux, oui. Donc en fait, l'objectif des chercheurs qui travaillent dessus, hein, c'est un laboratoire bordelais en fait, qui cherche à mettre au point justement une molécule révolutionnaire qui serait donc la prégnénolone, si j'ai bien compris. Donc en fait, l'objectif étant de contrer les effets du THC, hein, qui active des récepteurs et provoque l'intoxication, nous dit-on. Cette intoxication au THC s'accompagne d'effets de plaisir, de sensations de relaxation, de problèmes, mais aussi de problèmes de mémoire. Que quand les concentrations de THC sont trop élevées chez des fumeurs fortement impliqués, le cerveau développe un mécanisme de détente en produisant une hormone, donc la prégnénolone. Donc l'un des chercheurs nous dit, je cite, « Nous avons prouvé que cette hormone va se développer dans un endroit spécifique des récepteurs et bloquer la plus grosse partie des effets intoxicants du cannabis. » Donc cette prégnénolone constituerait en fait un mécanisme naturel de défense contre les effets du cannabis en empêchant le THC d'activer pleinement les récepteurs cérébraux. Voilà ce dont ils sont en train, sur quoi ils sont en train de travailler. Donc en fait, cette molécule n'inhibe pas le cannabis, mais elle va le transformer. C'est comme si vous preniez une molécule différente qui n'est plus le cannabis. Voilà en fait tout l'enjeu des essais et de la future mise au point de cette pilule. Je sais pas comment on peut dire. J'ai même pas envie de dire médicament parce que pour moi c'est pas un médicament, mais voilà. Alors après bon,
c'est comme des produits. Tu les prends et après tu bois de l'alcool et tu sens pas que t'as pris le produit, quoi, et que tu sens pas que t'as pris d'alcool.
Bah si, tu sens que t'as pris l'alcool, mais l'alcool fait plus l'effet dans ton cerveau.
Ouais, voilà. C'est ça.
Bon, je trouve ça un peu inquiétant personnellement. Genre de substance. On va voir. Hein. Bon, pour l'instant, c'est à l'état d'étude. Ils font des tests sur des rats de laboratoire.
Bah, ils l'ont testé sur une personne, a priori. Hein. Si j'ai bien lu, ils ont testé sur un humain. Il y a un humain qui s'est porté cobaye. Un premier test de phase 1 sur des volontaires sains et humains sera donc lancé en septembre. Voilà, pardon.
Ouais, en septembre de l'année. Donc pour l'instant, ils en sont toujours sur les rats. Et au mois de septembre, sur les humains, il y aura un test. Mm-hmm. Voilà. Bon, on vous tiendra au courant parce que, effectivement, ça nous intéresse.
Sur cette prégnénolone. Le fumeur donc va donc ressentir un plaisir atténué. Ça va peut-être pas le priver totalement de plaisir. Voilà, bon. Mais je vois pas en tout cas l'intérêt qu'aurait un fumeur de prendre un produit pour ne pas ressentir le plaisir.
Quoi, ça va pas se passer comme ça. C'est plutôt que les gens vont se faire choper genre cannabis au volant. On va les orienter vers des stages de sensibilisation et ils vont changer la loi pour faire en sorte que les gens soient obligés de prendre ce médicament.
Il faudrait qu'ils aillent à une pharmacie pour l'acheter, quoi.
Ben, on les obligera.
Pour aller après pas le prendre. Il va falloir qu'il passe tous les jours devant le commissaire. Bonjour monsieur, je prends mon médicament.
Je pense que malheureusement...
Vous n'avez pas gâché sous votre langue, moi.
Il y a une marge, d'adaptation des lois par rapport à tout ça, qui est inquiétante et qui est à venir, quoi.
Hein. Ouais, voilà. Il va falloir que ça change. Hein. Allez, un petit coup de musique et puis on revient très vite fait sur Rafi, je ne veux pas son nom. Hein. Voilà, mais
personne ne sait de qui tu parles, alors mets de la musique.
Rafi et... Meshulam, celui qui a découvert le THC, on arrive tout de suite, on vous parle de ça un peu. De...
Ouais, je vais te dire oui, vraiment bien, franchement très bien, musique, vous avez raison les gamins, faut pas vous laisser emmerder comme ça non plus, non vous avez raison, faut faire changer les choses, faut faire bouger un petit peu tout ça, ça franchement ça donne du boom au cœur, hein, allez, on va s'en faire une petite à l'ancienne là, hein, allez les gamins, vous reprenez avec moi là, ça fait, dépénaliser dans le monde entier, tout le monde, dépénaliser. Allez, tout le monde avec moi. Tout le monde, dépénaliser. J'ai écouté quand même son truc que je me rends moins con, là.
Voilà, c'était encore toujours sorti de 30 rapports pour dépénaliser.
Bon, on s'excuse pour ce soir pour la programmation musicale, pas très mélodieuse, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, alors, ça fait des petites coupures, hein, ça change de nos voix, voilà, et puis c'est bien, dépénaliser.
Putain, mais t'as pris quoi ce soir? T'as pas fumé ce soir, je sais pas ce que t'as pris, mais... Bon, alors on va essayer de finir l'émission. Il nous reste 3 minutes et demie. Avec un article de Vice.com, Vice, on dit, c'est un article sur le découvreur du THC, donc je vais dire son nom correctement, Raphaël Meshulam.
On a rencontré le plus grand spécialiste de cannabis thérapeutique au monde. Donc c'est Juan Camilo Maldonado Tovar qui nous écrit tout ça. Voilà. Et puis il part comme ça, au milieu de nulle part, en 1980. Il parle d'une équipe de chercheurs de la faculté de Sao Paulo qui publie une étude qui aurait pu changer la vie quand même de près de 50 millions d'épileptiques. Mais il n'en a rien été. Et pourtant, les conclusions étaient claires. Hein. Ils avaient pris 8 patients épileptiques. Ils leur avaient donné du cannabidiol. Et chez 4 d'entre eux, les crises ont cessé. Chez 3 autres, les crises se sont raréfiées. Et donc pour un, bon, il n'y a pas eu d'effet pour le dernier, forcément. 7 sur 8, donc des effets très positifs. Qui s'est intéressé à cette découverte? Personne, s'exclame Raphaël Meshulam.
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 Oui.
Meshulam.
Oui, mais non, tu me dis le et, tu dis N, toi. Mais c'est pas grave, allez, continue.
On va y arriver.
Juste, bref, faut prononcer son nom correctement, voilà, c'est tout.
Bref. Pourtant, voilà, il y a certains patients qui ont des épileptiques, c'est très, très grave, c'est très handicapant, 40 crises par jour. Bref, en tout cas, le docteur Meshulam, donc, est horrifié par cette non-prise en cause des études. Alors, il rappelle pourtant que le cannabis thérapeutique, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui en parlent, hein. Il parle aussi de quelqu'un dans le Colorado, Norton Arbelaez, qui travaille là-dessus. Il y a aussi Juan Manuel Galán, sénateur colombien, qui essaye aussi d'avancer sur des lois ou sur des choses sur le cannabis médical. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est le docteur Meshulam, donc, qui donne un petit peu toute sa science, puisque c'est un octogénaire qui connaît bien tout ça, qui rappelle que non, non et non, le cannabis n'est pas une drogue passerelle. Donc c'est quand même assez important de le dire et de le rappeler, hein, par rapport à la théorie de l'escalade. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, ce Rafi, comme on l'appelle dans le métier, ce docteur Meshulam, parce qu'il a commencé là-dessus. Donc il était en Israël, quand il est israélien, et il a fait des études de médecine, ou des études non pas seulement de médecine, mais aussi de chimie, de biologie, que je dise pas de bêtises. Bref, en tout cas, il était chercheur.
Oui, il a fait de la chimie, il a obtenu un master en biochimie. Oui.
Voilà, j'arrivais plus à retrouver où c'était écrit. Et en tout cas, il cherchait un sujet de thèse, il ne savait pas trop quoi choisir.
Ce qu'il dit, c'est que on avait fait des études et on avait isolé la morphine de l'opium et la cocaïne de la feuille de coca, mais comme il dit, personne n'avait pris soin d'étudier la composition de la marijuana. Voilà, c'est donc, pour ça aussi que ça l'a motivé.
Voilà, c'est, puis s'intéresser là-dessus, ça n'avait pas trop quoi sujet. Et pourtant, il n'était pas hippie. Donc voilà, il a fait ça. Et donc, c'était dans les années 63-64. Et donc, il a isolé le tétrahydrocannabinol dans les années 1964. Donc, comme il dit, la molécule responsable de la défense canapique. Et il a aussi découvert le cannabidiol, dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est une des molécules qui permet de soigner l'épilepsie.
Le CBD, voilà.
Voilà. Et le CBN, le cannabidiol, lui, permet de soigner les stress post-traumatiques. Voilà, merci. Voilà, donc on avance très vite et on finit sur cet article. Qu'est-ce que je peux dire encore? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors lui, c'est quand même un chercheur qui est phénoménal, hein, parce que il savait pas trop. Pour s'en faire fournir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les flics, il lui a dit je suis un chercheur, etc. Hop, on leur a amené 5 kilos.
Pas lui directement, mais le responsable du labo, de l'école, oui.
Ouais. Le directeur a appelé la police et la police leur a amené 5 kilos d'herbe. Donc après, il a fait des tests. C'est comme ça qu'il l'a isolé. Et dans les tests qu'il a fait, il a fait des tests sur des singes aussi, où il a fait ingérer le cannabis à des singes, où il les trouvait mutiques, apathiques, absents. Et lui, après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis du THC donc, dans une pâte à gâteau et il l'a pris avec des amis. Donc on dit que c'est sa première et sa dernière défense de la vie de Raphaël Meshulam. Mais en tout cas, ce qu'il a noté, c'est que ça provoquait des effets. Mais très différent selon la fonction, en fonction des consommateurs. Certains de ses amis parlaient sans cesse, d'autres étaient mutiques et un semblait souffrir de paranoïa légère. Voilà, donc voilà, c'était un bon chercheur, en tout cas il s'est bien amusé. Lui, il avance que le THC et le cannabinol ne sont pas toxiques en elles-mêmes. Voilà, depuis la vie, depuis le 6e siècle, rappelle-t-il. Nous savons que le cannabis est susceptible d'engendrer des épisodes psychotiques, mais voilà, c'est juste des épisodes. Et en ce qui concerne l'addiction, on estime seulement à 10% le taux de consommateurs accro. Hein, on ne parle pas d'une addiction bien plus forte que celle, mais une addiction légère, hein, c'est des addictions bien moins fortes que celles générées par la morphine, par exemple. Voilà, pour Raphaël Meshulam, donc il est essentiel d'établir une ligne de séparation nette entre ce qu'on appelle le cannabis récréatif et le cannabis médical, c'est deux choses différentes. Pour lui, la plus grande découverte de Meshulam, c'est pas seulement le THC en lui-même, mais c'est lui aussi qui a découvert les récepteurs du THC, en particulier le CB1, depuis on a découvert le CB2, mais bon voilà. En tout cas, il s'étonne de la présence d'un récepteur dédié au THC et il pense que c'est une bizarrerie a priori difficile à comprendre pour qu'on ait un tel récepteur dans notre cerveau. Il ne comprend pas pourquoi. En tout cas, ce récepteur est lié à l'anandamide.
L'anandamide
pour faire très très vite, très très rapide. Ça vient d'ananda qui signifie joie suprême. Et ça joue sur le système endocannabinoïde, voilà. Bon, bref.
Endocannabinoïde dans notre corps, ça veut dire. Voilà.
Il rappelle un petit peu tout ça, en tout cas, c'est un des grands découvreurs. Hein. C'est pour ça qu'il le considère comme le plus grand spécialiste du cannabis thérapeutique. En tout cas, on va juste finir sur la conclusion, hein. je vais assez vite parce qu'on commence à déborder. Le docteur Meshulam répète à l'envi que l'humanité ne mérite pas tout ce que les cannabinoïdes ont à lui offrir. Voilà, et je m'étonne que les industriels, aussi cupides que soient, ne se sont pas encore intéressés à ces découvertes.
Dit le journaliste, et Meshulam répond, c'est simple, qui voudrait affirmer haut et fort se faire des millions grâce au cannabis ?
Voilà, mais une position difficile à tenir, je pense que le cannabis légalisé, ça fait perdre des millions aux industries pharmaceutiques et je pense que c'est pas pour rien qu'elles freinent des deux fers et que les médecins payés par ces firmes pharmaceutiques arrivent à écrire des insanités pour que le débat n'avance pas et qu'on crie haut et fort, attention, attention, le cannabis c'est méchant, c'est dangereux et ça tue.
Ouais, bon, alors voilà, c'est la fin de Cannabis Circus, excusez-nous, on a du retard, maintenant c'est Chasseur de son. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés encore, d'être fidèles
à cette heure. Et donc je vous rappelle quand même ce que dit le docteur Meshulam, l'humanité ne mérite pas tout ce que les cannabinoïdes ont à lui offrir.
Merci, ça c'est... Bon, allez, c'est Chasseur de son, merci à toutes. Merci
Dieu
à
n'aurait
tous.
Pas dû donner le chanvre aux hommes.
On s'en fout de Dieu. Bon, allez, à la semaine prochaine. Au revoir et merci. Et voilà, mon collègue, vous l'avez remarqué, il est un peu à l'ouest. Il met même pas le générique.
Le générique, bon sang.
C'est pas grave, c'est Chasseur de son maintenant. Allez, à la semaine prochaine, au revoir.
Ah, il faut un générique, là, c'est pas possible. Ah, il faut un générique, ah oui.